Bonjour, c'est Victoria qui parle maintenant. Mon domaine de recherche, c'est la politique internationale. J'ai choisi deux articles très intéressants aujourd'hui. Dans le premier article, il s'agit d'une révolte en Haïti. Et le deuxième article aborde la question de la cicatrice espagnole. Ok, je vais commencer avec mon article sur Haïti. En Port-au-Prince, aujourd'hui, il y a une caperanum, et ça veut dire que tout est complètement détruit. Et par rapport à Port-au-Prince, la ville qui s'appelle Cap Haïtien semble comme un havre de paix. Donc, ça veut dire que c'est. Il n'y a rien qui passe vraiment. La semaine dernière, il y avait des révoltes violentes dans la ville. Il y avait des émeutes qui couvrent sur la surface de la société en Haïti. L'auteur de l'article parle de la manifestation et elle parle au point de vue d'une policier montréalais qui était là pendant la manifestation. Et il a dit qu'il a eu la frousse de sa vie. Et ça veut dire qu'il avait le peur de sa vie. C'était terrifiant. Il était en train de transporter des soldats pour le ONU. Des gens haïtiens ont attaqué leur camion pour les tuer. Le policier, il est venu à la rescousse, qui veut dire qu'il est venu après l'attaque, mais quand il est venu, il a voulu rebrousser chemin parce que c'était quelque chose de terrible. Il y avait des pneus et surtout beaucoup de personnes qui sont affectées. Et il a dit qu'il était sur la panique. Le 4 jours après la manifestation, on a mis la ville sans dessus. Et ça, c'est un point de langue que je vais expliquer maintenant. Et c'est une locution verbale qui veut dire tourner la tête de quelqu'un ou le troubler ou bouleverser. Et je crois que c'est un mot très, très intéressant. Tous les habitants de la ville ont dû se terrer là, dans la maison et les rues étaient coupées. Après cette explication de la manifestation, l'auteur a dit que les explications pour la manifestation semblent une couche de peinture superposée et on peut mieux comprendre la situation si on ratait un peu cette peinture superposée. Il y a trois points de vue très pertinents selon l'auteur. Et je vais commencer avec le premier. C'est l'État n'a pas pris ses responsabilités. Donc, ce sont les attitudes des gens et les explications pour les manifestations. Donc, l'État n'a pas pris ses responsabilités. Ici, on parle des ghettos où on n'a pas accès aux hôpitaux et la population était frappée de plein fouet par le choléra et l'épidémie de le choléra. Et c'est aussi un de mes mots, mes locutions. De plein fouet est une locution adverbiale figurée, et ça veut dire de face, en ligne droite, directement. Donc, la population a été frappée de plein fouet par le choléra. Et de plus, après la manifestation, toutes les rues dans la ville étaient noircies, qui veut dire rendues noires. Et il y avait des reposoirs de voyageurs qui sont des petits abris pour les voyageurs qui on peut dormir là. et tous les gens dans les ghettos à regarder l'auteur de l'article avec méfiance. La population des ghettos en veut à la présidente parce qu'il il dit que le président n'a jamais mis les pieds à Cap-Étienne. Donc, il y a un sens d'ignorance à part de le gouvernement. La prochaine explanation, c'est je comprends la grogne. La grogne, c'est un mot colloque. Et ça veut dire je comprends pourquoi la population est fâchée et mise en colère. Donc, l'auteur fait le point sur l'issue du choléra. Elle a parlé avec une personne qui dit que après la vie s'est embrassée, donc beaucoup des ministres sont venus pour calmer le jeu. Donc selon ce genre, les politiciens sont venus pour calmer le jeu et a mis les pieds à Cap-Étienne. Ok. Le dernier, c'est la main cachée, et je crois que ça, c'est l'explanation la plus intéressante, parce que ça, la main cachée, ça veut dire qu'il y a une personne qui a tiré les ficelles de la révolte. Je vais continuer dans une minute. La main cachée, ça veut dire qu'il y avait une personne qui a tiré les ficelles de la révolte. Tirer les ficelles, c'est une locution verbale qui veut dire faire agir les autres sans se montrer. Donc, faire agir en secret. Donc, il y a les gens qui sont convaincus qu'une main cachée a tiré les ficelles de la révolte. Et c'est parce que il y a des gens qui veulent saboter les élections qui approchent sous prétexte de choléra. Donc, il y a un candidat pour le Sénat candidat a été mis en cause par la population parce qu'il croit qu'il traîne la patte dans les sondages, qui veut dire que les sondages disent qu'il va perdre l'élection. Donc, il veut éviter les élections qui approchent en créant de l'instabilité sociale. Donc, on finit par une petite discussion de le régime haïtien qui a allumé le feu dans ce ville. Et maintenant, le régime est aux abois, qui veut dire qu'ils n'ont pas plus de choix. Et leur stratégie, perçue par ces gens qui croient dans une main cachée, leur stratégie d'éviter les élections a fait boomerang parce qu'il y a maintenant un grand problème à Cap. Il y avait un grand problème à Cap-Étienne. Ok. J'ai parlé de tous mes points linguistiques sauf rebrousser chemin. Et c'est une locution qui veut dire revenir en arrière ou retourner. Donc, quand le policier est venu au Seine, il a vu tous les pneus en flammes et il a voulu rebrousser chemin. Ok. Et mon deuxième article, c'était une émission de télévision qui s'appelle Une heure sur Terre. Et je crois que c'était très, très intéressant. Il s'agit de l'Espagnol. L'Espagne, maintenant, 35 ans après la mort de Francisco Franco. Et je vais commencer par parler de la guerre civile. Donc, la guerre civile qui a mené au pouvoir Francisco Franco, ça fait 70 ans que c'est terminé. et Francisco Franco a gouverné l'Espagne avec une pointe de fer. Et une pointe de fer, c'est une locution figurée qui veut dire autorité, de gouverner ou commander avec autorité ou intransigeance. Et on peut parler de le franquisme pour parler de toutes les choses de Franco. Donc, pendant la guerre civile, il y avait plus de 100 000 personnes qui sont disparues et beaucoup de personnes ont été exécutées et jetées dans les fosses communes. Et la fosse commune, c'est un grand cimetière, c'est juste quelque chose dans le sol où on jette les corps des personnes mortes. Donc maintenant, en Espagne, on est en train d'exhumer tous les corps et on a déjà exhumé, je crois que c'était 4 000 corps, donc il en reste beaucoup à exhumer. Et le projet prend de l'ampleur, donc ça vient de plus en plus grande. Et ça, prendre de l'ampleur, c'est une collocation qui veut dire devenir plus expansif. OK. Maintenant, je vais parler des Canadiens qui étaient au cœur de la guerre civile. Et il y avait 3 Canadiens très importants. Je ne raconte pas leur nom maintenant, mais il faut juste savoir qu'il y avait des Canadiens en Espagne pendant la guerre civile qui sont venus pour supporter ses corps à la population espagnole pendant leur exode. Et la guerre civile a fait les pages les plus noires dans l'histoire de l'Espagne. Et maintenant, en Espagne, il y a un désir d'acheter la paix sociale. Et on peut faire ça avec une réouverture de le débat et de revisiter le passé. Ou réouvrir les pages de l'histoire. Donc, comme par exemple dans l'Afrique du Sud après l'apartheid, on peut revisiter le passé et faire le procès des crimes commis pendant la guerre civile. Et maintenant, en Espagne, il y a quelque chose qui s'appelle la loi d'amnésie. Et ça, c'est la loi officielle du gouvernement qui veut dire qu'on a tout oublié les crimes commis pendant la guerre civile. Et ça, c'est quelque chose de très controversiel maintenant. Et il y a une distinction très saliente entre la mémoire publique et la mémoire privée. Donc, la mémoire privée, ça veut dire les mémoires personnelles de tous les gens qui ont vécu pendant la guerre civile, qui étaient les victimes. Et leur blessure lui mange de l'intérieur. Parce qu'on ne parle pas de ce qui est passé pendant la guerre civile. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent réclamer la justice pour leur famille, pour les membres de famille qui sont morts. Et ils portent le deuil maintenant à nos jours de ceux qui sont morts. Et il y a cette mémoire privée et la mémoire publique. Et dans la mémoire publique, il y a beaucoup de gens qui s'opposent farouchement à la réouverture d'un débat parce qu'ils croient que c'est dans le passé et on a bien transitionné à la démocratie. Donc pourquoi est-ce qu'on doit revisiter ces atroces sans sert à rien? Mais il y a un mouvement qui s'appelle la récupération de la mémoire historique. Et ça veut servir à aider les gens à se mettre à la place de ceux qui ont été affectés par la guerre civile et pour lutter contre l'impunité des franquistes. Donc, quelqu'un qui est très important est Balthazar Garzón. Il est un juge très connu en Espagne. Et il a mené la lutte contre l'impunité. Il a enquêté sur les crimes d'humanité commis pendant le temps de Franco. Et il dit qu'il ne porte pas attention à la stabilité de la démocratie en faisant ça, mais c'est une nécessité dans une démocratie. Donc, il a ouvert les dossiers noirs et il a voulu parler de toutes les pages noires d'histoire. Mais en faisant ça, il a ouvert une boîte de Pandore en Espagne, qui veut dire qu'il a ouvert la source d'ennui ou l'origine de malheur dans la société parce qu'il y avait beaucoup de réactions très mal à son travail. Il est devenu un paria dans la société. Mais il dit que même si il est un paria, le débat de la réouverture de l'histoire, le revisiter de le passé va refaire surface toujours. Donc, ce qu'il faut faire dans la société, c'est mettre un point final et de lutter contre l'impunité des crimes commis. Et ça, c'est une façon de réunir la société. Et je crois que c'est tout. Merci.
Ok, alors c'est le tour de maintenant.
Oui, on va laisser les questions pour après.
Oui.
Ok. Bon, comme vous déjà laissé, mon domaine est l'éducation. Et je trouve que ça, c'est un sujet intéressant au Québec. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'au Québec, il y a non seulement la question des langues, anglais, français, mais aussi c'est une société très diversifiée avec beaucoup d'immigrants, et donc ça crée un cas, je crois, particulier, surtout à l'éducation et aux élèves à l'école primaire et tout ça. Alors, cette fois, j'ai écouté une émission sur la radio qui s'appelait L'intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières. Donc, pour le gouvernement maintenant, pour la ministre de l'Éducation, la priorité est d'offrir aux enfants la bonne qualité d'éducation sans exception. Alors, même si tu as une difficulté d'apprentissage, tu as le droit d'aller à l'école, et ça, c'est la priorité de l'heure du gouvernement. Ils disent qu'il n'y a pas d'enfants de trop, ou il n'y a pas d'enfants qui nuisent. Donc, ça c'est la position du gouvernement. Et à cause de ça, bon, en 1999, le gouvernement a mis en place une politique d'adaptation scolaire qui avait comme objectif, ce que je viens de parler, donner l'accès à l'éducation à tous les enfants sans exception. Et alors, avec ça, le nombre d'élèves par classe a été réduit. Mais il y avait besoin de ressources pour encadrer tous ces enfants dans la même classe. Donc, l'objectif était la réussite pour tous les enfants sans exception. Mais le problème avec ça, c'était qu'il y avait un décalage entre les ressources et les intentions. Donc, même si les intentions en étaient bonnes, il n'y avait pas les ressources nécessaires pour accomplir ça. Donc, c'était un programme qui n'a pas eu beaucoup de succès. Et alors, aujourd'hui, on continue à avoir une pénurie de spécialistes en éducation. Et ça se passe en même temps que le nombre d'élèves en difficulté augmente. Donc, c'est l'un des problèmes actuels du Québec en matière d'éducation. Et ça aussi pose un débat éthique, comme ils sont mentionnés dans l'émission. Parce que, bon, il y a des arguments pour intégrer les élèves en éducation, parce que pour intégrer une société, premièrement, pour avoir une société inclusive, et il y avait une femme qui a parlé dans l'émission, qui elle a dit que son, elle a eu un enfant qui avait une difficulté, mais il était en école normale. Et les autres élèves ont devenu plus tolérantes et ils ont perdu la peur de d'interagir avec des élèves en difficulté et ils ont arrêté les préjugés que même leurs propres parents ont maintenant. Donc ça c'était une bonne façon d'intégrer tous les élèves. Et aussi ça donne aux enfants sans difficulté l'opportunité de connaître des autres enfants et de, oui, comme je dis, d'arrêter les préjugés. Mais il y a l'autre côté de la médaille, comme toujours. Et il y a plus d'arguments contre, je crois. Le premier, c'est qu'en avoir des élèves en difficulté dans une classe régulière, ça ralentit les pas d'apprentissage. Mm-hmm. Surtout parce que les professeurs maintenant n'ont pas la formation pour traiter avec des élèves avec de très très grandes difficultés. Ils ont la formation pour enseigner aux enfants réguliers, mais pas pour enseigner en classe très diversifiée. Donc c'est difficile d'encadrer des élèves en très grandes difficultés. Et donc c'est un problème avec ces programmes qu'on met dans les mêmes sacs des cas très très différents, parce que ce n'est pas la même chose. Avoir de la dyslexie, tu peux suivre un cours normal, mais si tu as de l'autisme, ça c'est une autre chose, ça c'est un cas très plus grave et ça pose plus de difficultés pour les professeurs. Donc il y a un professeur qui a parlé dans l'émission et il a dit que nous sommes pris entre l'arbre et l'écorce, parce que quand ils sont dans une classe avec des élèves en difficulté, ils doivent choisir à qui j'accompagne, à qui je donne mon attention. Est-ce que mon priorité devient les enfants les plus forts ou les moins forts?
En difficulté.
Oui, donc c'est une décision qu'ils font prendre et ça dérange le niveau d'apprentissage. Et aussi, il y a un impact sur les enfants sans difficulté, parce que quand il y a des enfants en difficulté dans la même classe, ils sont comme mis sur pause, ils sont démotivés, ils perdent la stimulation, et ils développent des comportements négatifs. Ils ont plus envie d'aller à l'école et tout ça, donc ça c'est notre problème. Et finalement, à l'émission, il y avait un professeur de l'université UQAM qui a proposé que, je crois aussi que c'est une bonne solution d'intégrer les enfants, c'est une bonne chose de devenir plus tolérant dans la société, mais il faut le faire d'une façon plus organisée, comme par exemple, ils ont proposé la formation des spécialistes en éducation qui sont conscients et qui savent adresser les problèmes de divers enfants.
Aborder les problèmes
de divers enfants. Donc, mm-hmm. Ça, c'est la solution proposée. Et l'autre. Ah, mon autre article, c'était en revue, c'était dans l'actualité. Et c'est. On passe maintenant à l'université et au programme d'échange. Et donc. C'est une tendance mondiale d'aller en échange. De plus en plus d'étudiants partent à l'étranger pour étudier en session de ce bac. Et il y a... les destinations vedettes sont les Royaumes-Unis, l'Allemagne, l'Australie et les États-Unis qui taillent encore la part du lion, ça veut dire la plus grande partie, parce que les États-Unis accueillent 19% des étudiants dans l'échange du monde. Mais pour les Québécois, la France reste le choix numéro un. Mais les horizons s'ouvrent encore, parce que le Singapour, l'Argentine, le Japon, Surtout en Asie, ça devient de plus en plus, ça commence à être très populaire. Donc, même si la France est encore la choix préféré par les Québécois, les choix se diversifient. Cette façon d'être en mobilité internationale, comme ils en l'appelaient, c'est aussi l'internalisation de l'enseignement supérieur. Et il y a les gouvernements maintenant des programmes comme Erasmus et ceux du CREPUC qui encouragent les enfants pour aller à l'échange. Parce qu'il y a des vrais avantages, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour la société. Ça crée des citoyens du monde qui sont prêts pour traiter les défis du monde avec des partenaires internationaux, former des citoyens multilingues et pour pouvoir travailler internationalement et traiter avec de différents gens. Je crois que maîtriser notre langue est un élément essentiel. Et ça aussi donne aux étudiants des solides compétences interculturelles. Et c'est très important, je crois, à l'ère de la mondialisation, parce que non seulement pour accueillir non seulement partir à l'étranger, mais aussi les pays même, c'est important aussi d'accueillir des gens de l'extérieur du pays. Et donc, ces échanges augmentent de plus en plus, mais les Canadiens prennent encore la patte, ça veut dire qu'ils sont plus. Ils sont un pas plus lents. Surtout parce que le manque d'argent et la paperasserie administrative, ça peut devenir plus difficile et ça peut faire les échanges plus compliqués en comparaison à l'Europe, parce que seulement entre 1 et 6% des Canadiens partent à l'étranger, et en Europe, ce nombre est beaucoup plus grand, c'est comme 30%, je crois. Mais le programme devient plus populaire grâce à les blogs et les pages de Facebook, mais aussi grâce à les bouches-oreilles. Ça veut dire qu'en parlant des échanges, ça devient plus connu. Et donc, dans l'article, il y a beaucoup d'étudiants qui ont témoigné leur expérience. Et en unanimité, ils ont dit que c'était leur plus belle expérience, que c'est un apprentissage personnel énorme. Ils rentrent transformés, mûris et plus tolérants. Et aussi, quand ils rentrent, ils ont un nouveau regard sur le monde et sur le Québec. Il y avait un étudiant qui est parti en Angleterre. Et il disait que quand il était en Angleterre, il s'est rendu compte combien il est québécois. Donc, aussi au niveau personnel, il y a des avantages. Mais tu n'es pas très rose. Quand on part en échange, être toute seule dans un pays inconnu peut présenter des défis. Et la majorité des choses s'apprennent sur l'État, et aussi il y a toujours les célèbres chocs culturels, parce que la mentalité, la façon d'enseigner et l'environnement université sont très différents à ceux dont les gens sont déjà habitués. Et maintenant, parfois les étudiants veulent jouer dans la cour de grand, mais ils trouvent que c'est plus difficile de s'adapter. Ça est un dur cul pour leur orgueil. Mais malgré tout ça, ils ont accepté que c'est une expérience très belle et un apprentissage personnel très, très grand. Énorme. Maintenant, je vais parler de locution et colocation. Je l'ai laissé mentionner quand je parlais, mais par l'intégration des élèves en difficulté, mettre quelque chose en place, on a vu ça, comme établir les programmes pour l'adaptation scolaire. Une pénurie, ça veut dire un manque, et comme je mentionnais, il y a une pénurie des spécialistes en éducation. Mettre quelque chose dans le même sac, c'est englober, mettre des objets qui ne sont pas nécessairement égaux dans la même catégorie. Alors, différentes difficultés, mettre dans le même sac, ça crée des problèmes pour les professeurs. Être prise entre l'arbre et le corps, être impliqué dans une affaire où il y a des intérêts contradictoires. mettre sur pause, c'est comme ne pas progresser, ne pas avancer. Et encadrer, ça veut dire donner une formation, une discipline, des normes, des balises. Donc, et c'est ça qu'ils vont faire avec le, la politique d'intégration des élèves en difficulté. Et pour les échanges, jouer dans la cure des grands, ça veut dire faire avec ceux qui comptent pas, qui importent dans une domaine quelconque. Donc, les étudiants, quand ils arrivent, ils veulent conquérir tout, ils pensent que tout va être plus facile, mais ce n'est pas si facile toujours. Le bouche à oreille, ça veut dire, c'est quelque chose qui se fait connaître par les bouches à oreille. Mm-hmm. C'est comme très figuré, ça. Ne pas être très, très rose, ne pas être très parfait, avoir un côté mauvais. La part du lion, c'est la plus grosse partie. Donc, je parlais comme les États-Unis taillent la part du lion parce qu'il accueille le plus grand nombre d'étudiants. Et traîner la patte, comme je dis que le Québec traîne la patte en comparaison de l'Europe, ça veut dire marche lentement ou accuse un retard. Ne pas se développer aussi rapidement que d'autres.
Ok, tu veux passer ou
est-ce que c'est possible?
Oui.
Ok, alors, on prend les documents.
Merci.
Mon deuxième. Ok, alors, vu que je m'appelle Edith, et vu que je suis une étudiante en neurosciences, le domaine de santé me tient à cœur. Alors, j'ai choisi, pour mon document oral, j'ai choisi une émission qui a été diffusée sur Radio-Canada. Et c'est l'émission Les Docteurs, où il y avait 4 docteurs qui sont réunis et qui ont discuté quelques sujets du quotidien. Le premier sujet, c'était les bienfaits du sexe. Et une sexologue, Dr Joanne, a été accueillie.
Oui, une sexologue.
Oui, c'est une docteur qui a été certifiée dans les matières du sexe. Alors, elle était accueillie sur scène pour faire le point sur le rôle de la sexualité et concentrer sur le fait que le sexe est un remède pour les insomniaques. Alors, ici, oui, elle a mentionné que le sexe améliore la santé physique et la santé mentale. Et d'un côté, le sexe peut être considéré comme une activité physique comparable au sport. Alors, par conséquence, cette activité physique réduit la pression artérielle ou l'hypertension de 14 mm de mercure. Et en même temps, ce sport, produit des réactions neurohormonales. Et les neurohormones qui sont produites sont les endorphines. Et comme vous saviez, l'endorphine, c'est un hormone d'euphorie. Alors, il génère le bonheur et l'extase. Et en même temps, il y a une baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et troisièmement, il y a une production d'oxytocine, qui est une hormone d'attachement. Alors, il rend les gens plus chaleureux. Mm-hmm. Et ces trois hormones sont des neurotransmetteurs. Alors, ils affectent le cerveau et le système nerveux. Et de l'autre côté de la médaille, il y a la santé mentale. Et Dr Joanne avait mis en lumière le fait que faire l'amour génère un effet de bien-être et provoque un sens d'une détente ou d'un apaisement et induit le sommeil. C'est pour cela qu'on peut dire que le sexe peut aider à éviter les troubles de sommeil comme l'insomnie. Et le deuxième point qui a été discuté dans cette émission, c'est comment rester éveillé. Parce que nous sommes des étudiants et on a beaucoup de nuits blanches, certainement durant cette semaine. Alors, ils ont donné quelques conseils pour combattre le sommeil, comme boire beaucoup d'eau, éviter les sucreries et le chocolat, tout qui est concentré en sucre. Et certainement avoir recours aux produits énergisants comme Red Bull ou des collations protéinées qui donnent une rush ou un boost d'énergie. Et aussi, on peut boire des boissons riches en caféine comme le thé et le café. Et dernièrement, il y a l'utilisation des comprimés de caféine, mais le docteur ne les recommande pas parce que ça peut être dangereux.
C'est des pilules?
Oui, c'est des pilules qui ont un taux élevé de caféine. Mais le taux suggéré de caféine, c'est 400 mg. Mais ces comprimés peuvent contenir un taux plus élevé. Et ceci est détrimental parce que ça peut générer une fatigue, une fatigue d'un coup. Et en même temps, ça peut réduire l'appétit et causer l'hypertension.
Et c'est quoi la concentration dans une tasse de café?
Il y en a 150 microgrammes, quelque chose comme ça. Mais il faut être conscient que Red Bull contient de la taurine, qui est un neurotransmetteur, qui pourrait avoir beaucoup d'effets secondaires. Et les gens doivent être mis en garde contre la surconsommation de ce produit. Alors, comme vous voyez, ces produits énergisants, c'est comme une arme à double tranchant. Alors, il y a l'énergie d'un côté, mais il y a la fatigue incessante, oui, d'un autre côté. Alors, le troisième point, c'est comment éviter la gueule de bois. La gueule de bois, ça veut dire hangover.
Et c'est très étudiant cette émission.
Oui. Oui, exactement. J'ai beaucoup aimé parce que ça touchait à des.
C'est pertinent, oui.
Des sujets, oui, exactement, qui dans notre vie quotidienne. Alors, éviter la gueule de bois et le docteur avait mentionné que la gueule de bois est équivalente à une vessalgie. Vessalgie, c'est le terme scientifique pour définir la gueule de bois. Et la vessalgie a beaucoup de symptômes comme la fatigue, la migraine, la nausée, le vomissement, comme vous le saviez déjà. Et on a suggéré quelques conseils comme boire beaucoup d'eau et éviter de prendre trop de sel parce que le sel et l'alcool déshydratent. Alors il faut boire de l'eau. Mais en même temps, boire de l'eau n'est que la pointe de l'iceberg parce que il est nécessaire qu'on mange un repas riche en gras avant la consommation d'alcool parce que le gras
absorbé.
Oui, exactement, parce que le gras ralentit l'absorption de l'alcool. Et c'est pour cela j'ai vraiment aimé quand dans l'émission ils parlaient, ils ont dit que on doit manger une poutine. Mais en fait ici ils mangent la poutine après la consommation d'alcool, alors c'est un paradoxe. Et finalement il faut éviter les alcools foncés.
Et c'est quoi un alcool foncé? En couleur?
Oui, en couleur. Parce que comme le whisky, ou rum. Rum, c'est quelque chose.
Le rhum.
Ouais, ouais.
Parce qu'il juste une histoire, il y avait sur la bouteille rhum en anglais, puis en français rhum. Pourquoi est-ce que c'était rhum? Bienvenue au Canada.
Oui. Ok, alors, et aussi il faut éviter les mélanges, comme si tu bois du champagne, reste avec le champagne et n'inclus pas le vodka en même temps. Alors, il y avait ça, ouais. Alors, c'est ça pour mon émission, c'est la santé après minuit. Et j'ai trouvé quelques locutions intéressantes. J'ai vraiment aimé une gueule de bois parce que je ne savais pas l'expression en français. ça veut dire le vomissement, la nausée, la fatigue après une consommation élevée d'alcool. Et j'ai aimé faire le point, ça veut dire éclaircir une situation et prouver quelque chose. Et dans ce contexte, il y avait Dr Joanne, la sexologue, qui avait fait le point sur le rôle de la sexualité et les bienfaits du sexe. Et il y a la nuit blanche, et vous savez, pour passer une nuit blanche, ça veut dire une nuit pendant laquelle on ne dort pas, quand on étudie ou quand on travaille, quelque chose comme ça. Ok, alors c'est tout pour mon premier document. Maintenant, pour mon deuxième document, c'est un article du journal Le Devoir. Et c'est « Le Québec discrimine les médecins étrangers ». Et dans cet article, Micheline Lachance a mentionné comment les médecins diplômés à l'étranger sont victimes de discrimination. Et c'est malheureux d'entendre cela parce que les médecins étrangers sont diplômés et ils ont la même éducation et ils sont intellectuellement capables. Mm-hmm. Elle a mentionné que cette discrimination crée une perception négative. Et donc, ces médecins font face à une forme de racisme. Et face à ce racisme, cela va ouvrir la porte à des poursuites judiciaires. Parce que la politique d'immigration sélective du Québec leur fait miroiter une place au soleil. Et cela est inacceptable. Et j'ai vraiment aimé cette locution, faire miroiter quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire laisser entrevoir quelque chose comme possible dans le but de séduire, de convaincre. C'est comme tantalizing, mais en même temps, comme tu peux pas l'avoir. Et c'est ce que le Québec fait. Il fait miroiter aux médecins une place au soleil. Au Québec, mais ils peuvent rien faire, ils peuvent pas fournir des postes de travail. Alors, ces médecins ont été laissés sur le carreau. Et sur le carreau est une autre locution adverbiale. Ça veut dire être laissé à terre, sans ressources, démuni, subir un échec. Cela est inacceptable et on doit être impartial quand on est face aux médecins étrangers. Et dans ce contexte, il faut avoir deux poids et deux mesures. Ça, c'est une autre collection que j'ai vraiment appréciée. Et ça veut dire juger différemment d'une même chose selon les personnes et les circonstances. Ça veut dire être impartial. Et dans le contexte, ça veut dire que les universités doivent cesser d'avoir de poids, de mesure, de manière. Alors, ils doivent juger tous les médecins qui viennent de tous les pays de la même façon et ne pas privilégier ou ne pas donner tous les privilèges aux Québécois et donner la chance aux autres médecins. Et évidemment, dans ce cas, le Collège des médecins du Québec joue à l'autruche parce qu'il écarte les professionnels et en renforçant cette décision. Et il y a un grand paradoxe ici parce qu'il y a 82 postes à pourvoir au Québec et on déplore une pénurie de médecins. Parce que les malades sont en train d'attendre dans les corridors des urgences, exactement. Et il y a des délais pour être opéré. Et ces délais ne cessent de s'allonger. Et il y a beaucoup de fautes de médecins. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de ces fautes. Et de l'autre côté, il y en a plus de 200 médecins qui sont en attente d'une place dans les hôpitaux. Et qui ne sont même pas assurés de pouvoir mettre le pied dans un hôpital. Mm-hmm. Et c'est là que le bas blesse, parce que il y a ces places en résidence qui sont inoccupées, mais en même temps on a besoin de ces médecins qui sont capables et qui sont qui sont là. Alors, c'est pour cela que 3 ans après, le Québec se vante d'avoir mis en place des mesures pour corriger la situation. Mais les portes sont toujours aussi difficiles à défoncer. Alors, on est dans une course à obstacles. Et la solution est de faire pression sur les universités pour qu'elle donne la même chance aux médecins étrangers. C'est malheureux parce que ces conclusions troublantes parce que la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait fait une enquête et les conclusions n'étaient pas positives, elles étaient très troublantes. Et c'est dans ce contexte que Micheline Lachance avait mentionné prendre des gants blancs. Ça veut dire que la commission des droits de la personne doit mettre des gants blancs vu que les conclusions ne sont pas positives. Ça veut dire agir avec ménagement et précaution. Et finalement, j'aimerais mettre en lumière le rôle des facultés de médecine parce qu'elles s'inscrivent en faux, et s'inscrire en faux, ça veut dire elles contredisent ou elles nient, elles refutent. Alors elles contredisent, elles s'inscrivent en faux contre les conclusions qui ont été
tirées,
exactement, par la commission des droits. Et elle réclame le fait que les médecins qui viennent de l'étranger n'ont pas pratiqué la médecine depuis très longtemps, et il faut pour être crédible et pour être compétent, il faut pratiquer la médecine pour 4 ans en moyenne. Il est impératif de jouir d'une piètre connaissance de la pratique médicale pour travailler au Québec. Alors, comme vous voyez, c'est un grand dilemme, et je ne sais pas si ça va être résolu, si on va le résoudre prochainement, mais il doit être soulagé.
Mm-hmm. Ok, alors maintenant c'est Madeleine qui parle. Si voici mes documents. J'ai fait ma recherche dans le domaine de la société et de la culture. Et j'ai décidé de retourner au sujet du publicité. Alors j'ai trouvé un document écrit dans une revue qui s'appelle InfoPress. J'ai vraiment aimé la revue parce que ça aborde et ça traite seulement les questions de médias et de publicité. Alors c'était une revue très intéressante. Et l'article que j'ai lu s'appelle « La consommation des médias, les habitudes des Québécois ». Alors l'article aborde en premier les changements de consommation, c'est-à-dire lorsque les médias augmentent leur consommation ou diminuent leur consommation. Et l'article explique que souvent, lorsque ces changements arrivent, on blâme un manque de temps de la part des consommateurs, de la part des Québécois, et à la fois un contenu moins intéressant de la part des médias. Alors la conséquence, ça paraît que les médias subissent une chute de popularité, alors que les gens écoutent moins la télévision et la radio et lisent moins les magazines et les journaux. Mais l'article explique que en réalité, les médias augmentent leur consommation, mais c'est dans des plateformes, des nouvelles plateformes. Alors c'est-à-dire que les médias se consomment maintenant sur le web ou sur les téléphones mobiles ou les tablettes tactiles. Et ces nouvelles plateformes se présentent de plus en plus dans notre société. Alors, il y a une autre spécialiste qui a dit aussi que les gens n'hésitent pas à débourser pour les magazines imprimés parce que leur contenu est édité, ce n'est pas gratuit. Alors, c'est d'une qualité supérieure. Alors, l'article parle aussi des habitudes consommatrices des Québécois. Et il faut que je dise aussi que l'article, ça parle d'une étude conduite sur un échantillon de 2050 personnes. Alors, les habitudes basées sur cet échantillon, ça paraît que les Québécois ne pratiquent pas autant le multitâche qu'on le pensait, alors que la majorité des gens se concentrent sur un seul média. Et ce forme de média accapare le plus leur attention. Ça veut dire qu'ils dominent leur attention. Et qu'il y a seulement une minorité des gens qui consomment plusieurs médias à la fois et qui partagent leur temps entre eux. Alors, cela arrive beaucoup avec tous les nouveaux modes de médias. Avec la radio et la télévision, le temps d'écoute peut se faire maintenant avec les plateformes traditionnelles comme l'écoute en direct lorsqu'on allume la télévision ou la radio, ou sur une plateforme alternative comme une diffusion en podcast ou sur le web avec un outil mobile. Et avec les journaux et les magazines, la lecture peut se produire sur une plateforme traditionnelle qui est le format papier ou sur une plateforme alternative comme encore un site web. Alors les compagnies, de plus en plus, ils abordent le web et ils offrent un contenu gratuit pour leurs consommateurs. Et tout cela fait partie d'une stratégie dans le marché avec les publicités. Les compagnies conduisent des études et ils réalisent des sondages pour mettre en lumière ces sortes de constats. Avec cette information, ils choisissent un format publicitaire qui fonctionne bien et qui a beaucoup de succès. Alors, avec les publicités, cela fait que nous sommes de plus en plus exposés aux pubs et qu'elles sont ancrées tout à fait dans nos habitudes comme consommateurs et dans nos vies quotidiennes. Alors, l'élocution pour cet article, mettre en lumière quelque chose, nous l'avons déjà vu, réaliser quelque chose comme une étude, ça veut dire accomplir, juxtaposer quelque chose, celui-là, je l'ai trouvé intéressant, parce que de plus en plus souvent, lorsque nous regardons les publicités, ils sont juxtaposés au contenu. Alors, sur la télévision, on sépare les publicités et puis le contenu, mais sur un site web, on les voit tous les deux en même temps. Alors aussi, il y a accaparer quelque chose comme l'attention de quelqu'un. Alors ça veut dire prendre et retenir pour soi quelque chose et installer quelque chose dans son quotidien. Alors l'intégrer dans sa routine quotidienne du jour à jour et ensuite allumer quelque chose comme la télévision. Alors c'est faire fonctionner un appareil électronique et finalement consacrer son temps. Alors employer son temps à faire quelque chose. Alors à consommer. Un mode de média en particulier. Alors, mon deuxième document dans cette émission, il s'agit d'une enquête des pubs et le sujet particulier est le street marketing. Alors, c'est un nouveau phénomène qui s'est produit parce que avec l'augmentation du nombre de pubs à la télé et dans les rues et partout, le public est devenu saturé. Alors, il fallait que les entreprises développent des nouvelles stratégies de publicité. Et ils disent que le street marketing est lorsque les entreprises vont à la rencontre des gens dans la rue où ils se trouvent et ils touchent à nouveau le public. Alors, la méthode pour le faire, c'est d'abord de choisir une cible Ah, alors ça veut dire les gens que vous voulez cibler, que vous voulez cacher votre ce que vous vendez, et puis de rentrer en communication avec les consommateurs. Alors ça veut dire créer un message interactif ou adopter une attitude relationnelle. Et l'effet est que votre marque s'enregistre avec le consommateur dans l'avenir et dans le futur. Alors, il faut vraiment prouver au consommateur maintenant qu'on l'aime pour que vous démarquez votre marque. Alors, le street marketing, c'est vraiment lorsque les compagnies vont dans les rues et ils font du publicité en forme de spectacle. Alors, il y a les gens, par exemple, vous serez dans la rue et puis autour de vous, des gens commencent à faire une sorte de danse ou quelque chose. Alors, c'est tout une publicité pour une marque, mais ça paraît plutôt comme un spectacle. Alors, c'est très ingénieuse comme tactique. Alors et ça marche parce que ça fonctionne parce que les consommateurs veulent être à la fois considérés comme individus, alors se sentir unique et faire partie d'une communauté. Alors ça c'est le phénomène des communautés et dans l'émission ils expliquent que les réseaux sociaux sont une partie très importante dans cela. Alors les deuxièmes vies sur le net. Permettre aux gens de s'en servir pour se réunir en vrai. Alors, l'effet de tout ça, c'est le but de la part de l'entreprise de maîtriser tout. Alors, ils transforment, lorsque les gens voient les spectacles, et ils le filment avec leur iPhone ou quoi que ce soit, et puis ils l'envoient à leurs amis. Et dans ce sens, les gens deviennent le moyen de communication. Alors c'est nous qui nous font nous-mêmes de la publicité pour les compagnies. C'est lorsqu'on porte une marque, c'est un peu on fait la publicité pour cette entreprise. Alors, dans ce sens, les entreprises maîtrisent tout et les marques maîtrisent tout. Et comme l'émission dit, ça pourrait être très bénéfique pour une marque parce que leur marque devient très sympa dans les yeux du consommateur.
Et c'est contagieux.
Oui, tout à fait. C'est un effet viral. Mais à la fois, ils risquent de perdre le contrôle parce que si les gens filment des images dans la rue, n'importe qui peut s'emparer des images et les utiliser comme les gens veulent. Alors, dans ce sens, c'est un peu lâcher prise. Mais le but et l'effet ultime de cette stratégie est de réaliser des images spectaculaires qui sont innovatrices et qui sont très ingénieuses. Et puis de capturer des moments inédits et de les transformer en spot télé pour les gens et pour faire encore de la publicité pour leur marque. Alors j'étais vraiment intéressée, cette émission m'a vraiment intéressée. Et les locutions que j'ai trouvées sont aller à la rencontre de quelqu'un, ce qui veut dire rencontrer quelqu'un ou aller vers quelqu'un lorsque les entreprises vont dans les rues. Et puis saturer quelqu'un ou quelque chose, c'est remplir excessivement. Alors, face à des écrans publicitaires saturés, les marques ont éprouvé le besoin de retrouver le public là où il se trouve vraiment. Et puis toucher quelqu'un à nouveau, c'est intéresser ou concerner quelqu'un sur de nouvelles bases. Et puis transformer quelque chose en quelque chose. Oh, je n'ai pas écrit. C'est transformer,
transfigurer peut-être.
Oui, c'est de changer quelque chose. Transformer
quelque chose.
Oui. Et puis, alors, lorsque les marques transforment, de la transformer elles-mêmes en moyen de communication, alors transformer la cible en moyen de communication, et puis de maîtriser quelque chose, c'est dominer quelque chose, et s'enregistrer avec quelqu'un, c'est être observé ou constaté par quelqu'un. Alors, ce sont les locutions et les colocations qui ont revenu et que j'ai trouvé intéressant. Mais globalement, j'ai trouvé ma recherche, parce que j'ai concentré sur le même sujet, pour les 4 documents, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir tout l'aspect psychologique et culture. Parce qu'il y a le site web où j'ai trouvé l'émission, c'est culturepub.fr. Alors, c'est tout vraiment une culture, la publicité.
Et c'est beau comme le mise en marché comme est très spontané.
Oui, oui. Et parce que les gens.
Rend efficace et plus.
Oui, c'est vraiment un phénomène. Oui. Ok, alors c'est le temps pour la discussion.
Oui.
Alors, est-ce qu'on se demande des questions ou...
Oui, si vous voulez. Moi, j'ai une petite question concernant. Concernant votre. Le sujet du cap haïtien. Et vous aviez mentionné le cap Arnaum. J'avais pas compris. Est-ce que c'est une destruction au niveau social ou économique?
Ok. Oui, je crois que c'est un mot très intéressant. Et c'est. Je peux. Ok. En anglais, ça veut dire shambles. Donc, c'est vraiment une destruction sociale, un économique, désordre, n'importe quelle forme de.
Un désordre complet.
Complet,
okay.
Ouais.
Ok. Ok. Merci.
Et aussi, est-ce que j'écoutais les nouvelles et ça parlait de l'Haïti et du choléra et puis ils ont interviewé quelques gens sur la rue et ils ont dit qu'ils ne se sentent pas en sécurité parce qu'ils ne savent pas où ils peuvent attraper la maladie.
Oui.
Alors, est-ce que c'est alors la peur?
Oui, il y a vraiment... Oui, un manque d'informations. Comment est-ce qu'on peut attraper? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui.
Si je l'ai attrapé, quels sont les symptômes?
Oui, et si l'eau est contaminée, on ne sait pas où elle est contaminée. Où elle est,
Et il n'y a pas des infrastructures pour soigner les gens qui tombent malades.
Il y a un manque d'éducation sur le sujet.
Par exemple, dans les ghettos, il n'y a pas des hôpitaux et il est très difficile pour les gens qui habitent de se rendre à l'hôpital parce que c'est proche à impossible.
Est-ce qu'ils vont arrêter les élections à cause du choléra?
Non, je ne sais pas. Je ne crois pas que les élections sera annulées, mais des gens croient que il y a les candidats veulent créer de l'instabilité sociale pour annuler les élections. Mais ce n'est pas quelque chose qui est certain.
Ok.
Mais c'est seulement conspiracy, je ne sais pas le mot en français, un conspirateur, conspiratrice.
Je ne suis pas sûre.
Oui, donc c'est une image de ce qui passe.
Okay. Et pour Maria, j'ai une question concernant l'intégration des élèves en difficulté. Vous avez parlé de la solution proposée qui est la formation des spécialistes. Mais est-ce que vous croyez que cette solution est faisable? Et si elle est faisable, est-ce qu'on va diviser la classe en deux et laisser les étudiants en difficulté ensemble et les autres?
Oui, j'ai eu la même question. Comment est-ce que ça peut fonctionner?
Peut-être d'une façon plus organisée. Alors, les enfants peuvent interagir, mais peut-être les enfants qui ont une très grande difficulté, au moment de... Ils peuvent aller avec les spécialistes. Alors, donc, intégrer complètement les enfants avec une difficulté pas grave, comme la dyslexie et tout ça, et les difficultés plus graves.
Majeures.
Oui, majeures. Ouais. Comme avoir un spécialiste qui est en charge d'eux pour leur aider, mais sans arrêter l'interaction avec les autres enfants.
Okay. Oui, je crois que dans mon lycée, on a eu ce système. J'ai eu des classes avec tout type de personnes et les personnes qui étaient le plus retardées avaient, je ne sais pas si c'est un mot aussi correct, mais...
Il y avait des difficultés.
Oui, la retardation... mais ces gens ont eu une personne qui
est venue à toutes les classes avec cette personne pendant toute la journée, qui n'était pas la prof, mais qui donne de l'aide à, mm-hmm. aux étudiants s'ils ont besoin. Mm-hmm. Ça s'appelle un aide.
Je suis pas sûre si le Québec a déjà arrivé à cette phase, mm-hmm. Mais par les moments, ils vont former ces spécialistes. Il y a une pénurie. Donc, mm-hmm. premièrement, il faut former ces spécialistes et après, voir comment organiser le système pour que cette intégration continue, mm-hmm. mais sans arrêter la qualité d'éducation des enfants sans difficulté, mm-hmm. sans ralentir l'apprentissage.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous pensez dans le système d'éducation que j'ai fréquenté ou j'ai faisais partie? Il y avait le programme enrichi où les élèves qui ont réussi dans un certain pourcentage élevé sur un test, ils sont on les met dans une classe enrichie. Alors c'est tous les enfants les plus forts y vont, et puis il y a les autres enfants. Alors est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou non?
Non, je crois pas. Je crois pas parce que le fait qu'il y a un mélange, mm-hmm. entre les élèves, comme il y a tous les niveaux, mm-hmm. comme ça enrichit les élèves qui sont moins forts.
Dans les expériences un peu sociaux.
Oui, 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 oui. Il faut de tout pour faire un monde. Mm-hmm. Alors,
ça te rend plus tolérant, mais c'est une question difficile parce que qu'est-ce que tu préfères? Intégrer la société et avoir des gens plus tolérants, mm-hmm. mais s'il y a des enfants avec très très grande capacité, mm-hmm. il ne faut pas les dépenser, il ne faut,
oui.
pas comme les enrichir.
Oui.
Alors
c'est la question, oui.
Oui, c'est ça. Où est-ce que, quel chemin est-ce qu'on prend?
Mais ces enfants, excusez-moi.
Non.
Mais ces enfants qui ont comme une capacité ou un potentiel énorme, ils peuvent comme exploser ce potentiel dans les universités.
Oui.
Mais dans l'école.
Oui, mais dans l'école, ouais. parfois, lorsque le pas de l'apprentissage n'est pas aussi élevé pour un enfant, les enfants deviennent. Ils commencent à.
C'est ça.
Ils marchent en arrière.
Si on, ouais. fait ça, les enfants vont se démotiver.
Et puis il agace le professeur.
Il faut stimuler, exactement. Donc
c'est difficile.
C'est,
oui.
très difficile. Peut-être que moitié parce que, oui, parce qu'il y a une tolérance, oui. après pour enrichir sa capacité. Oui. Ou
je voulais dire que ça peut être une bonne idée d'avoir quelques classes mélangées comme. Qui sont,
oui.
un peu plus,
oui.
simples comme
le
gymnasie,
oui.
je crois, et mais si
l'artistique
et
oui,
oui et ça donne une chance d'avoir un mélange social, mm-hmm. mais aussi s'il y a des cours comme de mathématiques, mm-hmm. ou je ne sais pas,
littérature,
et si il y a des niveaux clairs,
oui,
et
oui.
ça peut être,
je crois, mm-hmm. qu'au moins mettre tous les enfants dans les mêmes écoles.
Oui,
donc,
oui,
au moins de cette façon, ils se voient.
L'interaction sociale,
oui.
J'ai une question. Est-ce que vous laissez être comme ça?
Comme quoi?
Comme j'ai décrit. Avec tous les gens dans la même école, quelques classes,
oui.
mélangées,
oui.
quelques
cours. Mais c'est plutôt parce que au secondaire, pour moi, j'ai choisi mes cours. Alors, dans ce sens, il y a les mathématiques élevées, et puis il y a l'anglais enrichi,
oui,
oui, ou
ouais.
AP. Ou,
oui. Oui, oui. Oui, moi aussi. Mm-hmm.
Est-ce que vous avez des questions sur l'échange? Est-ce que vous pensez?
Est-ce que vous avez fait des échanges?
Non. Moi, j'ai essayé, mais grâce à la papéracerie administrative de McGill, je n'ai pas pu.
Oui. Moi, j'ai fait un échange à Concordia.
Ah,
oui. J'ai pris un cours en français.
Tu
en
l'as
fait. Oui, j'ai vraiment aimé. Mais c'était très proche, comme c'était le même système.
Oui, non.
Mais c'était pas
un échange.
Ouais. Nouvelle personne, mais.
Ouais. Et ils étaient tous des étudiants plus âgés que moi.
Okay.
Alors c'était intéressant.
Mais est-ce que c'est quelque chose que vous considérez?
Oui, moi je veux en faire une. Oui.
Où? En France?
Oui, je crois que j'irai en France,
wow.
mais je ne suis pas certaine. Il y a aussi l'Angleterre ou dans les Pays-Bas peut-être. Alors.
Mais ce serait bénéfique quoi, si tu vas en France.
Oui, pour le
pratiquer
le français.
Le français.
Oui.
Ouais.
Je vous recommande de commencer à faire tout le
Oui, le travail
tous les papiers,
papier,
les papiers,
oui.
avec beaucoup de temps, hein, parce que s'il y a quelques difficultés, parce que McGill, c'est très difficile, il prend beaucoup de temps pour réviser tous tes papiers, alors prends ton temps, parce que...
Où est-ce que tu voulais faire l'échange comme...
En France.
Ah.
Parce que moi, je crois que j'irai dans ma troisième année, alors je commence, je crois, l'année prochaine à faire les papiers.
Est-ce que vous aviez des questions pour moi ou...
Oui, comment... Qu'est-ce que les... Donc, si je suis un médecin de notre pays et je vais travailler au Québec, est-ce que je peux?
Ok, alors... Oui, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Et en fait, dans cet article, il y avait une petite entrevue avec un médecin qui venait de l'Algérie ou quelque chose comme ça. Et il voulait travailler ici, mais il a été découragé.
Mais il parlait quand même le français.
Oui. La première langue là-bas, c'est le français. Oui. Parce qu'il y avait la colonisation française. Il a été découragé parce qu'il y a beaucoup de papiers, comme la paperasserie administrative. C'est très difficile. Il y a beaucoup de travail à faire pour que tu sois admissible.
Oui, mais il y a aussi... Si les universités admettent plus d'étudiants dans leur programme de médecine et s'ils sont un peu plus ouverts, ça pourrait engendrer le problème d'avoir trop de médecins dans le marché. Et puis, ils deviennent saturés et leur valeur... de l'emploi et de cette position, ça déprécie, tu sais. Mm-hmm. Alors, il faut aussi assez d'argent pour payer tous les médecins. Alors, c'est une situation compliquée parce qu'il y a une pénurie de médecins, mais il y a aussi, ils ne peuvent pas inonder tout le domaine avec... Des centaines de nouveaux médecins.
Oui, c'est vrai. Mais ici, le problème, ce n'est pas les admissions des facultés de médecine. C'est le problème, c'est avec le fait que ces facultés préfèrent les médecins qui ont été certifiés du Québec de travailler aux hôpitaux qu'ils sont affiliés avec sur les autres médecins. Qui ont plus de
qualifications,
plus d'expérience, comme ils ont travaillé des dizaines d'années à l'ailleurs.
Quelque chose que je trouve est un peu contradictoire. Je ne sais pas si tu racontes, mais l'année dernière, dans le cast français, on a parlé des médecins du Québec, les médecins québécois, qui voulaient travailler d'ailleurs, qui sont partis du Canada pour travailler parce que c'est on paye moins d'argent aux médecins ici. Donc je crois que c'est intéressant parce que j'ai gardé cette idée en tête et quand j'ai écouté ta présentation, je pensais donc qui va travailler dans les hôpitaux si nous dit que les Québécois veulent travailler d'ailleurs et celle qui veut qui vient d'ailleurs qui veut travailler ici ne peut pas.
Mais les Québécois comme ils sont plus payés en ailleurs parce qu'il n'y a pas de taxes. Ici il y a 10 ou 15 ou 20% de taxes. Ils sont réduits du salaire. Ouais.
Et aussi, moi, je crois que c'est contradictoire parce que la politique québécoise a toujours été comme d'accueillir les immigrants. Et oui, il vient au Québec, il est facile de s'établir. Mais la plupart de ces médecins qui arrivent sont des immigrants et ils ne peuvent pas travailler sur sa carrière. Alors ça, c'est contradictoire. Oui, tu veux accueillir des immigrants, mais tu ne leur donnes pas l'opportunité de travailler en ce qu'il veut.
C'est absolument vrai. Oui.
Ok. Question? Non?
J'avais une question pour toi. Oui. Les street marketing, où est-ce que ça se passe?
Ok, il y a un exemple que j'ai trouvé vraiment amusant. En Berlin, en Allemagne, la compagnie Volkswagen, comme la femme dit, ils ont installé une sorte de toboggan. Alors il y a tous les escaliers qui descendent, mais ils ont installé un toboggan rouge. Et puis alors on pouvait glisser au lieu de prendre les escaliers. Alors oui, alors vraiment, ça n'avait rien à faire avec les produits Volkswagen. Ça n'a rien à faire avec les autos, mais à cause du phénomène de bouche à l'oreille, tout le monde parle de ce toboggan et tout le monde s'est excité. Alors ça, c'est encore l'effet viral. Et c'est une forme de publicité qui est très effective parce que oui, parce que ça stimule de la conversation entre les gens. Alors c'est à la table du dîner, on parle du toboggan Volkswagen dans le métro. Alors
c'est vrai, c'est amusant.
Ok, alors je crois que c'est l'heure de partir.
Ok, alors bon compte rendu. Oui, c'est ça.